Bonjour à toutes et à tous. Donc, Aurélia Truong-Kwang, formatrice éducation prioritaire dans l'Académie de Créteil, plus spécifiquement en fait rattachée à deux réseaux du Val-de-Marne. Et je ne suis pas venue seule, mes collègues sont à mes côtés dans la salle. Et je vais effectivement, là pour ce matin, vous présenter le plan de formation de ces deux réseaux d'éducation prioritaire que nous avons travaillé justement collectivement. Donc vous voyez effectivement le titre, l'intitulé que nous avons assigné à ce plan de formation qui est « Le ou les langages pour apprendre et enseigner les mathématiques ». Alors juste avant de vous présenter tout ça, je voulais vous dire un petit peu sur quoi, peut-être quelle était la philosophie des différents, actes d'ingénierie de formation. Et puis aussi, qu'est-ce qui va guider peut-être aussi ma façon de vous présenter les choses, puisque je me suis posé cette question. Qu'est-ce qui pourrait vous être utile, justement, dans mon témoignage, dans notre témoignage, justement, de notre plan de formation, pour que ça vous serve, effectivement, dans votre propre activité professionnelle. Donc, du coup, on ouvre le petit livret du Centre Alain Savary et nous avons justement ce merveilleux schéma qui s'inspire effectivement du travail de Hubo. Donc cette idée de l'approche par le travail réel, puisque effectivement à mes débuts de formatrice, je me posais ces questions effectivement. Quand on a ces prescriptions, comment est-ce qu'on s'en débrouille et comment est-ce qu'on le réalise? Et puis avec cette idée qu'on perçoit tout le temps en fait un écart entre ce que l'on nous demande et puis ce que ça nous demande et ce que l'on parvient à réaliser. Donc du coup, je vais essayer tout au long de ma présentation de vous dire, en tant que formatrice et formateur collectivement, qu'est-ce qu'on nous a demandé, justement, parce que c'est un pan très important de notre activité. Qu'est-ce que ça nous a demandé? Donc comment est-ce qu'on a pu éventuellement traduire, éventuellement se débrouiller avec les différentes contraintes et prescriptions? Et puis qu'est-ce qu'on a permis de mettre en action? Et du coup, quels sont les différents compromis qu'on a pu essayer, de faire? Donc ça, voilà, je vais essayer vraiment de dérouler, de déplier au maximum Ces éléments, cette part invisible du travail, parce que je pense que ça va faire écho peut-être à votre activité et au questionnement aussi que vous vous posez. Autre point aussi, que je voulais redire, ça peut-être qu'on ne le présente plus, mais en tout cas, ce sont effectivement ce schéma, cette étoile la première identité peut-être de ce livret. Ce sont des principes en fait de formation que nous avons en tête, et donc dans tout ce qu'on va essayer de déplier en termes d'ingénierie, d'animation et d'accompagnement, nous aurons effectivement ces cinq directions que vous connaissez. Et c'est sans doute, est-ce que ça vous parle, je pense que l'étoile, on ne la présente plus. Mais par contre, ce que je vais essayer de faire, c'est que effectivement, je vais essayer de vous faire émerger comment est-ce qu'on essaie de faire vivre justement ces cinq directions dans notre activité. Voilà, donc ça, ce sont les deux points qui vont être en trame de fond dans ma présentation. Vous n'hésitez pas éventuellement à m'arrêter parce que je suis persuadée qu'il y aura plein d'implicites que je vais avoir et pas réussir à lever. Donc s'il y a des choses que vous voulez que je précise, surtout, vous n'hésitez pas. Alors, peut-être que avant tout, il faut que je prenne le temps de contextualiser justement cette formation-là. Donc déjà vous dire que là c'est un plan de formation qui concerne deux réseaux d'éducation prioritaire d'un même département qui sont assez proches, néanmoins séparés par la Seine. Ça n'est pas une information inutile, parce que ça veut dire que quand on veut rassembler les personnes, eh bien il y a effectivement des contraintes géographiques, spatiales et temporelles qui nous amènent en effet à réfléchir à tout ça. En tout cas, alors aussi pourquoi on a rassemblé ces deux réseaux, c'est parce que je fais mes fonctions de formatrice éducation prioritaire à mi-temps sur ces deux réseaux. Mais donc derrière, il y a bien effectivement deux collèges. Je ne vais pas me tromper parce qu'on a un peu changé, mais 7 écoles d'un côté et puis 8 écoles de l'autre. 2 équipes de circonscription avec 2 histoires de territoire et des problématiques différentes, néanmoins avec de forts points commun. Donc ça, c'était aussi un des points qui nous a amené à travailler ensemble sur ce plan de formation. Il y a des spécificités entre ces deux territoires, entre ces deux réseaux. Déjà d'une part parce que le premier réseau est l'un des réseaux historiques du département. Il existe depuis 1981 et donc il a connu les différents dispositifs de l'éducation prioritaire. Alors que le second est tout neuf, effectivement, même s'il y a eu différents dispositifs à certains moments. Mais en tout cas, la dimension réseau, collectif, territorial justement sur ce réseau est assez nouvelle et donc ça fait depuis 2015 que nous travaillons en réseau. Alors du coup, REP+, ça veut dire que nous avons du temps de concertation et de formation à mettre en œuvre et ce sont deux leviers en tout cas justement du travail collectif de la maternelle jusqu'au collège que nous avons dû penser et intégrer tout au long de ces années. Alors du coup, quand en 2015, cette formation devait être mise en place, eh bien voilà, on s'est lancé. Donc il faut se rappeler que pour les écoles maternelles et puis élémentaires, nous avons 3 jours par école, en effet, à organiser justement 3 jours de formation. Il y a aussi 6 jours de concertation. Ensuite, il y a des découpages un petit peu différents. Alors c'est un petit aspect technique, mais qui n'est quand même pas inutile, à avoir en tête, puisque là, très concrètement, j'ai un petit peu calculé. Donc les 2 équipes de circonscription, 2 conseillers pédagogiques, un quart de FEP justement puisqu'on est partagé de la même manière, 1 coordonnateur à temps plein pour chaque réseau. Et puis ça représente à peu près, j'ai compté, 57 journées de formation si on réunit les deux réseaux. Donc vous voyez que le volume horaire, c'est pas rien de vous le dire parce qu'effectivement ça sous-entend une force humaine, une force de travail qui n'est pas justement des moindres et qui est apparue justement dans le paysage de nos réseaux. Donc ça, c'est le premier point justement sur les formations. Alors donc juste pour vous dire, pour ces dernières années, ce qu'on avait fait en première réponse, c'était vraiment d'aller demander au collectif qu'est-ce que vous avez envie que nous fassions ensemble. Et donc finalement, les écoles formulaient des vœux de formation et puis ensuite on proposait une action de formation à partir des demandes qui avaient été formulées. Donc on se retrouvait, et bien finalement, vous imaginez bien, avec parfois 17 formations différentes à faire. Donc ça pouvait aller des mathématiques à la communication non violente, etc., etc. Donc vraiment quelque chose de très diversifié. Donc en termes de ce que ça nous demande en tant qu'équipe de formateurs et accompagnateurs, c'est une grande souplesse. C'est aussi d'être en capacité de répondre à une multitude de sujets et donc qui était une certaine, qui était assez complexe justement pour nous. Oui, bien sûr.
Peut-être juste une petite chose, c'est que là tu parles de ce que ça nous demande en tant qu'équipe de formateurs. Et donc, tu as l'air de dire de manière un peu implicite que le fait que vous constituiez une équipe de travail, ce soit quelque chose de naturel. Or, je pense que c'est quelque chose que vous avez travaillé, même si peut-être il y avait tellement besoin de constituer une équipe, vu la charge de travail, c'était une nécessité. Mais ça a quand même nécessité de la construire, cette équipe, et c'est pas rien.
Exactement. Alors, je vais peut-être y revenir un petit peu plus tard, mais effectivement, je vais m'arrêter tout à l'heure sur cette idée de collectif de formateurs, parce que donc derrière cette force de frappe un petit peu à déployer sur toutes ces écoles, eh bien, on a à faire intervenir des personnes, d'autres missions, d'autres horizons, etc. Et donc, la question de la cohérence et de l'articulation entre les différents formateurs va se poser. Et donc, on a pensé depuis l'année dernière, comme réponse justement à ce que ça nous demande et ce qu'on va essayer de mettre en œuvre avec des principes, en tout cas une volonté que voilà, on ait un plan de formation qui soit cohérent et qui s'inscrive dans la durée, eh bien la constitution d'un collectif de formateurs a été une de nos réponses. Et je vous préciserai un petit peu le cheminement qu'on a pu faire justement depuis l'année dernière, et puis du coup mes collègues pourront compléter ce que je vous dirai. Donc du coup, je reviens juste sur la question de la formation. Donc multitude de comment dire de thématiques. Et du coup, on s'est dit que on s'épuisait un petit peu déjà nous en tant que formateurs. Et en même temps, on n'arrivait pas. Enfin, c'est pas parce que une école demande une formation collective que ça répond réellement à des questions de métier. Et du coup, là, je fais référence peut-être, je pense au texte de Bernard Charlot, hein, qui parle du mythe des besoins de formation. On a vraiment éprouvé ça, des moments très difficiles d'ailleurs en tant que formateur, où on arrive, on pense être dans la demande des collègues, et en fait, on se rend compte que ça ne convient pas. Donc, du coup, on a changé en fait d'optique et on s'est dit, peut-être qu'il serait intéressant d'utiliser la formation pour pouvoir justement déjà construire comment dire une dimension de réseau. Donc cette idée, pourquoi est-ce que on va pas proposer une seule et même thématique à toutes les écoles du réseau pour pouvoir eh bien avoir cette dimension collective, hein, puisque faire réseau, là je regarde Isabelle et puis Rémi, les coordonnateurs du réseau, c'est une préoccupation qu'on essaie effectivement d'avoir, mais comme chaque acteur du réseau est dans son quotidien professionnel, si on n'a pas, on va dire, des trames collectives qui nous emmènent justement vers un horizon ou des perspectives communes, c'est très compliqué effectivement d'être dans cette dimension réseau. Donc on a fait le choix eh bien, de choisir une seule thématique pour comment dire pour la formation. Alors j'en viens à là peut-être parce que cette formation elle est choisie du coup en fonction de quoi, si ce n'est pas justement comment dire des besoins formulés par les enseignants, eh bien c'est là où vient justement peut-être cette double prescription à laquelle nous devons justement répondre, alors même si elle était déjà présente hein, avant quand les équipes formulaient leurs besoins de formation. Donc déjà une première prescription descendante, c'est-à-dire que bien entendu nos inspecteurs hein, et puis alors chefs d'établissement font des demandes aux équipes de formateurs voilà, en fonction du plan de circonscription, en fonction des, comment dire, des directives nationales. On a aussi bien sûr eh bien, le référentiel de l'éducation prioritaire qui est quand même un texte auquel on se réfère très très régulièrement. Donc là je pense particulièrement à la première priorité, hein, lire, écrire, parler dans toutes les disciplines, enseigner plus explicitement les compétences que requiert l'acquisition du socle. L'animation du travail collectif, accueillir, soutenir, former les personnels. Donc vraiment, c'est une feuille de route en tout cas qui, c'est un prescrit auquel nous nous référons, comment dire, très régulièrement. Deuxième point, effectivement, eh bien, on a des prescriptions, on va dire, remontantes, c'est-à-dire qu'on a des attentes en tant qu'équipe d'accompagnateurs formateurs que nous formulons et que nous essayons justement d'appliquer à cette formation. Donc premier point, c'est cette idée de s'inscrire dans la durée. Et là, donc, je fais tout de suite le petit clin d'œil, vous voyez bien, à l'étoile hein, de conception de formation, hein, cette idée d'accompagner dans la durée. On avait bien vu les trois premières années, quand on faisait année 1, deux thématiques de formation, année 2, deux autres thématiques, etc. Il y avait en fait une sorte d'épuisement professionnel, aussi bien de la part des équipes que des formateurs. Donc vraiment cette idée de pérenniser les choses et de bien prendre conscience que si on veut se garantir justement que les collègues s'approprient, questionnent leurs pratiques, développent des stratégies collectives, etc., on ne peut pas imaginer qu'en faisant une journée ou trois journées d'intervention, cela suffise. Hein, cette idée de se donner le temps, c'était quelque chose qui était, comment dire, très important. Et puis donc, se donner le temps par la thématique, bien sûr, mais aussi se donner le temps pour pouvoir avoir cette vraie posture d'accompagnement. C'est-à-dire vraiment, on ne vient pas, on fait une prestation et on repart. Hein. On est bien des acteurs du territoire qui accompagnent et qui forment les collectifs. Et donc, cette idée de pouvoir accompagner dans la durée, c'est quelque chose d'important. Donc, bien entendu, c'était les moments où nous venons, les moments où nous allons en classe, où on essaie de mettre en cohérence toutes les actions qu'ils peuvent avoir justement sur le territoire. Ça, c'est un point, comment dire, assez important. Ensuite, autre prescription que nous assignons dans le collectif de formateurs accompagnateurs, eh bien, c'est cette idée donc d'aller tout de même, même si on ne sondait plus, on va dire, les besoins des équipes, c'est tout de même d'aller au plus près des préoccupations justement des enseignants et des équipes. Et du coup, ce qu'on a essayé de faire, c'est de déployer un petit peu nos antennes. Et on s'est posé des questions du type, quelles sont les questions de métier qui reviennent très régulièrement, quels sont les problèmes pour enseigner, les problèmes à enseigner que nous rencontrons à chaque fois que nous allons dans les équipes, dans les différentes actions. Et donc, je vous présenterai un petit peu tout à l'heure, mais du coup, on est parti justement d'un constat partagé. Hein, à partir du moment où on a changé de cap par rapport à la formation des REP+, et on est parti des premières des questionnements que nous faisaient remonter justement les collègues. Voilà. Ensuite, alors au-delà de cette prescription, hein, qui est le contexte quand même de cette formation, il y a cette idée d'un réseau de contraintes. Qui est quelque chose d'assez important. Et donc, encore une fois, dans cette idée, dans notre travail de formateur, penser une thématique et puis ensuite de penser justement l'animation, il y a quand même aussi cette idée qu'il faut bien aussi qu'on se pose la question de qu'est-ce que l'on fait autour et dans quoi, justement, dans quelle tension éventuellement ça peut, comment dire, s'insérer. Là, vous avez en fait affiché sur ce schéma l'issue de notre journée de bilan de l'année dernière, c'est-à-dire qu'on a fait le point de ce qu'on avait vécu ensemble dans ce plan de formation. Et puis, au fil de la formation, on s'est dit, mais tiens, mais on n'a pas que la formation qui nous préoccupe, on a aussi, comment dire, l'accompagnement des CPCE1, on a aussi la question des liaisons, on a ce que l'on fait dans les instances, etc. Et donc là, ce que vous avez justement sous les yeux, c'est... On a fait le bilan de la formation, mais à chaque fois, on se disait « Ah oui, mais on fait aussi ça ». Est-ce que ça, ces éléments, justement, de quelle manière ça influe notre travail? Qu'est-ce que ça nous demande aussi, hein, par rapport à la formation, etc. Donc, vous voyez derrière cette espèce de schématisation un peu simple, quand même cette idée d'écosystème dans lequel notre activité de formateur-accompagnateur, justement, s'inscrit. Et que c'était important, enfin c'est important en tout cas d'avoir ça en tête, parce que du coup on peut mieux peut-être penser d'une part la cohérence et puis l'articulation avec ces autres axes. Quand on a la tête dans le guidon pendant toute l'année, hein, on est bien d'accord que parfois c'est un petit peu difficile de se dire tiens, j'ai fait ça dans le cadre de la formation REP+, mais je vais aussi faire ça dans l'accompagnement des CPCE1, comment est-ce que ça se répond, etc. C'est quelque chose qu'on n'a pas tout à fait l'opportunité de faire, effectivement, vu, on va dire, la masse, hein, de travail que ça peut, comment dire, représenter. Ça revient aussi à l'idée, bah, peut-être, du collectif de formateurs, c'est-à-dire que quand on en a discuté ensemble, eh bien, on s'était jamais collectivement, en tout cas, interrogé là-dessus. C'est-à-dire que, finalement, ça, c'était quelque chose qui nous pesait, hein, vous voyez, en arrière-fond, de façon peut-être inconsciente et invisible, et en fait, individuellement. On ne le faisait pas collectivement, on ne se disait pas, voilà, toi tu fais ça, nous on fait ça et ça ensemble. Comment est-ce que, justement, ça peut impacter notre réflexion autour de cette formation? Donc voilà, premier réseau de contraintes, effectivement, cet écosystème assez complexe que vous avez sous les yeux. Deuxième point, eh bien, l'autre réseau de contraintes qui n'est pas des moindres, et là je vois Rémi et Isabelle qui sourient. J'ai mis effectivement peut-être l'outil que nos coordonnateurs de réseau pensent, rêvent, cauchemardent. c'est effectivement le calendrier REP+. Donc là, je sais bien que ça vous paraît, hein, c'est quoi? C'est un tableau, des cases, des couleurs, etc. C'est quelque chose de très, très complexe, qui pense figé, mais qui, en fait, évolue parfois de minute en minute. On est bien d'accord. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous ai mis en image, justement, ce calendrier? Parce que finalement, c'est le point qui, on va dire, a pu nous happer littéralement dans notre réflexion par rapport à l'ingénierie de cette formation. C'est-à-dire que au démarrage, on avait fait des bilans hein, de qu'est-ce qu'on voulait faire à partir de ces questions de métier, comment on voudrait le faire avec tous les principes hein, que je vous ai expliqués, et puis comment ça rentre dans l'organisation de l'année. Ben, on voit bien qu'à un donné, on a eu chaud parce qu'on s'est dit « en fait, c'est pas possible ». Du coup, comment est-ce qu'on fait à partir de cette contrainte organisationnelle pour essayer de mettre justement nos principes de formation, ce que nous voulions réaliser pour que la formation REPLUS soit utile, utilisable et acceptable. Voilà. Est-ce que vous voulez peut-être rajouter quelque chose, Rémi, Isabelle, par rapport à cette organisation ? Il y a un implicite quand même que je ne dis pas, c'est qu'au-delà de l'organisation du temps, il y a aussi, bien entendu, les brigades de remplacement que nous envoyons dans chaque école, d'accord ? Une brigade qui est un certain nombre, justement, de personnes, qui, donc, d'ailleurs, combien ? 12 pour au total 250 enseignants. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut qu'on pense sur comment on envoie ces 12 remplaçants dans les classes pour faire en sorte que ces temps de formation et de concertation soient possibles. Donc ça n'a l'air de rien, mais c'est quelque chose d'être de je vois des oui. C'est effectivement parfois, une grosse préoccupation et j'ai envie de dire presque un combat pour faire en sorte, encore une fois, que ça ne prenne pas le pas sur nos prérogatives d'ingénierie de formation. Voilà. Donc ça, c'était pour tout ce qui est du contexte. Donc peut-être que maintenant, je vais rentrer un peu plus justement dans le contenu, de cette formation. Mais en tout cas, hein, vous avez entendu toutes ces tensions hein, qui se posent justement à nous, hein, ce qu'on aimerait faire, ce qu'on peut faire, ce qu'on nous demande de faire, ce que ça nous demande de faire, etc. Alors, cette formation, j'ai peut-être pas... Alors, la formation que nous avons mis en place, donc c'est depuis l'année dernière qu'on s'est dit on va faire une seule thématique pour tout le réseau, et d'ailleurs même on fait travailler les deux réseaux justement ensemble. Cette première année, donc l'année dernière, en fait, on était parti d'un constat partagé. Hein, je vous disais tout à l'heure, ces questions récurrentes qu'on entend justement en formation, c'est ce qui a été notre matériau pour pouvoir réfléchir à ce qu'on allait proposer justement comme axe de formation à ces deux réseaux. Quelles sont ces questions récurrentes ou ces observations récurrentes ? Premièrement, on entend à chaque fois, quelle que soit la thématique de formation, j'ai du mal à faire apprendre à mes élèves parce qu'ils ont très très peu de vocabulaire. Ça, c'est le premier point. Deuxième remarque que nous avons entendue régulièrement, c'est cette idée, nos élèves et parfois nos familles sont éloignés de la langue française et donc la langue déployée à l'école ne permet pas à mes élèves justement d'apprendre correctement. Voilà, donc ce sont deux axes en fait, alors je vous le dis comme ça, mais bien sûr on a différentes façons hein, de les exprimer. Donc ce sont deux constats massifs qu'on a entendus, on s'est dit il faut qu'on s'en saisisse et il faut que justement on puisse, y répondre. Du coup, premier axe, on a fait le choix pour toutes les maternelles eh bien, d'aller chercher justement cette question du langage. Et donc comme vous pouvez le voir, hein, on est allé chercher Naramus pour pouvoir apprendre à comprendre et à raconter. Ça nous semblait être tout à fait dans les préoccupations justement des enseignants, hein, puisqu'il y a cette préoccupation du vocabulaire et du langage oral, donc qui est assez important. Et alors en plus, le vrai confort du formateur, c'est que c'est un outil qui est proposé justement aux enseignants et qui s'inscrit justement, enfin qui s'inspire en tout cas des résultats de la recherche et donc qui est mis en place assez facilement. Alors ça, c'est le premier point pour les maternelles. Deuxième point ensuite pour les élémentaires, eh bien on s'est dit, on va essayer d'aller chercher une cohérence justement avec la maternelle, et on va aller chercher ce langage oral et du coup on l'a intitulé « Parler pour penser, apprendre et se construire ». Peut-être que vous voyez effectivement le lien avec l'ouvrage de Dominique Bucheton et de Chabannes, hein, qui est en fait « Parler et écrire pour apprendre, penser et se construire ». Donc on s'était dit qu'on allait justement travailler sur le langage oral pour les élémentaires. Donc voilà les deux axes qu'on a choisis, vous voyez, pour pouvoir répondre à ce constat, comment dire, partagé. Alors du coup, je ne vais pas vous faire l'historique, enfin, c'était important de vous dire pour vous amener justement vers notre choix de cette année. Je ne vais pas vous redire les grandes lignes, mais en tout cas, on a eu deux préoccupations en tant que formateur et deux points qu'on a essayé de faire passer massivement justement dans ce plan de formation, et même ça fait un moment aussi qu'on en parle, comment dire, avec les équipes. On avait travaillé notamment les années précédentes sur la notion d'enseignement explicite, etc. Et donc, un point qui a été présenté, qui a été travaillé avec les équipes, c'est cette idée, cette notion de malentendu. Et ça, justement, cette idée que nous avons des élèves qui sont dans le faire, voilà, pour faire, qui sont dans l'exécution de la tâche et qui ne sont pas justement dans l'appropriation des savoirs, dans l'identification des enjeux justement de l'activité scolaire. Donc ça, c'était ce point-là. Et puis, ces élèves qui sont bien dans le faire pour apprendre, hein, et qui comprennent justement les implicites de l'école, les finalités des activités, etc. Donc ça, cette idée de malentendu, cette notion-là, c'est quelque chose d'important et qui a été dans nos différents axes de la formation l'année dernière, mais encore avant. Autre point, et ça fait aussi partie un petit peu de notre bilan de l'année dernière, puisqu'on parle du langage, Sylvie disait hier, est-ce que parler de et parler sur, cette notion de secondarisation, c'est quelque chose que nous avons justement eu à l'esprit. Hein, on a aussi notamment présenté le répertoire des postures d'élèves, hein, de Dominique Bucheton aux équipes, etc., pour aller chercher cette notion, hein, ce langage, mais lequel. Et donc on a vraiment essayé de mettre en avant cette idée de secondarisation. Alors lors de notre bilan, peut-être que j'en reparlerai un peu plus tard, effectivement, on s'est dit que la secondarisation, c'était quelque chose qui était très complexe du point de vue des enseignants, c'est-à-dire qu'on se rend compte que c'est peut-être pas quelque chose qui est totalement passé, et donc il y a une vraie volonté à l'issue de cette première année sur les langages, eh bien, de poursuivre justement ce travail autour de la secondarisation auprès des enseignants et des équipes. Mais aussi du point de vue des formateurs, on s'était dit que peut-être qu'on n'avait pas entendu tout à fait la même chose derrière secondarisation, et c'était aussi un point qu'on avait justement à avoir à l'esprit et à continuer de discuter ensemble, notamment dans la façon de penser nos actions de formation. Voilà. Donc ça, c'était l'historique de l'année dernière. On s'est dit dans notre bilan de l'année dernière aussi que cette idée du langage, c'est quelque chose de très complexe, parce que c'est quelque chose qui s'évapore assez facilement. Peut-être que d'ailleurs je peux vous montrer... alors attendez. Voilà, je vous montre peut-être le schéma qu'on a construit ensemble avec les collègues l'année dernière à partir de le langage oral, pour vous, qu'est-ce qui est difficile ? Hein, et ça, c'est quelque chose qu'on a demandé justement, comment dire, aux enseignants. Et voilà ce qu'ils nous ont un petit peu répondu. Donc, on a essayé de catégoriser les éléments qu'ils ont pu effectivement nous répondre. Mais les deux grands axes, c'est il y a quelque chose de difficile de l'ordre de la conception. Et puis, il y a aussi quelque chose de difficile de l'ordre du pilotage au sein même de la classe. Donc là, du coup, ça fait penser peut-être au multi-agenda de Dominique Bucheton, hein, que vous connaissez, cette idée. Voilà, mais comment est-ce que je l'anime, je le pilote, etc. Et puis, il y a des questions vives telles que, mais comment est-ce que je l'évalue parce que ça s'évapore, etc., etc. Bon. Donc, à l'issue de cette première année, du coup, on s'est dit ce qui est difficile en tant que formateur et puis du coup peut-être du point de vue justement des enseignants, c'est de réfléchir sur ce langage qui peut s'évaporer et puis sans avoir spécialement d'ancrage didactique. Et du coup, là, j'en viens à vous montrer ce schéma que vous pouvez retrouver dans le livret du Centre Alain Savary. Nous avons essayé l'année dernière d'aller penser justement qu'est-ce qui est difficile à faire pour les élèves. Donc, je vous avais dit tout à l'heure l'histoire du vocabulaire, l'histoire de parler en classe, d'éloignement peut-être à la langue scolaire, etc. Et puis, qu'est-ce qui est difficile aussi à faire pour les enseignants? Donc, c'est le schéma que vous avez vu tout à l'heure. Hein, voilà, bah, c'est difficile à concevoir, c'est difficile à piloter dans le vif de la classe, etc. Et en même temps, voilà, on se disait qu'on avait du mal à attraper ces choses-là. Et quand on a fait le bilan en fin d'année dernière, on s'était dit que l'ancrage didactique était peut-être aussi une des réponses pour pouvoir justement avancer sur ces questions. Et du coup, que ce milieu d'apprentissage était quelque chose d'important. D'où notre choix par rapport aux mathématiques. Donc, on s'est dit qu'on allait poursuivre notre travail autour des langages, mais justement d'aller chercher l'histoire des mathématiques. Voilà. Est-ce que ça va? Je suis claire là? Vous me suivez? Pas de questions. Alors maintenant, j'accélère un petit peu. Je vous montre maintenant du coup ce qu'on a pensé. Donc ça, c'est le fruit de notre travail, de notre réflexion sur toutes les contraintes que nous avons, tout ce que nous avons envie d'y mettre. Hein, et du coup, bah, comment est-ce que ça peut se mettre en œuvre justement tout au long de l'année? Donc, premier point, vous avez un premier temps qu'on a déjà d'ailleurs déroulé, qu'on a déjà mis en œuvre, c'était de remettre en question cette notion de secondarisation. Donc, ce langage qu'on va déplier justement en classe sur les activités d'apprentissage. Donc, ça, c'est le premier point et donc, on l'a déjà, vécu. Alors, peut-être en termes de modalité, ça peut vous intéresser, mais comme on a été aussi très contraint par le nombre de demi-journées, etc., à signer, donc du coup, on a été obligé de le faire sous forme de conférence, qu'on a rassemblé en fait les 250 enseignants. Donc, vous imaginez un petit peu les questions que ça pose. Parler de secondarisation face à 250 enseignants, c'est quelque chose qui est, d'assez complexe. Donc, trouver le bon intervenant, etc., faire en sorte que cette question, soit fasse écho dans la pratique de chacun, etc. Deuxième intervention, deuxième moment fort, nous avons fait venir, Sylvie, pour pouvoir parler des obstacles, justement, aux apprentissages. Donc, on s'était dit, en mathématiques, qu'est-ce qui pose problème pour apprendre du point de vue des élèves et puis pour enseigner du point de vue des enseignants. Ce qu'on a fait par contre dans ce moment-là, c'est qu'on a voulu séparer les élémentaires et les maternelles parce que les questions en termes d'obstacles aux apprentissages et d'obstacles pour enseigner ne se posent pas dans les mêmes termes. Donc on a justement désolidarisé justement ces temps-là. Troisième temps, on s'est dit, alors on va faire ça sous forme de conférence en très grand nombre. On voudrait que quand même on ramène justement le réel de l'activité de l'enseignant et de l'activité des élèves. Et du coup, si on ne fait que du mode de conférence, justement l'espace classe, là, il risque justement d'être oublié. Donc, ce qu'on a mené, ce qu'on a fait comme choix, c'est d'envoyer tous les enseignants des 2REP+ en observation en classe. Donc, on a commencé, c'est, vous voyez, 250 enseignants à envoyer, à remplacer, etc. Donc, du coup, on a des enseignants qui vont observer donc, des séances de mathématiques avec cette idée, bah, quelles sont les pratiques langagières qui sont déployées, justement, par l'enseignant et par les élèves lors de ces séances-là. Je reviendrai un petit peu sur ce temps d'observation. Donc là, ces trois temps que vous avez, on les a déjà commencé cette année, d'accord ? On est vraiment dans le vif de l'action pour ces trois temps. Et ensuite, les derniers temps qui nous restent encore à mener et à concevoir, on a encore des temps de travail ensemble à mener, eh bien, on va essayer de concevoir et analyser justement une situation d'apprentissage et enseignement en mathématiques. Et donc là, on va essayer sur ce temps-là de conception de rassembler les collègues par cycle. Donc là, pareil, ce sont des grands groupes et puis on va essayer de se répartir là-dedans. Et dernier point, eh bien, ce sera analyser les pratiques langagières en mathématiques pour apprendre et enseigner. Et ça, par contre, ce dernier temps, c'est le temps qu'on a réussi à garder sur site, en école, où là, on sera vraiment au plus près, on va essayer d'être au plus près justement des pratiques de la classe. Alors là, du coup, la question qui se pose tout de suite, c'est d'accord, analyser les pratiques langagières par équipe d'école, comment vous allez faire ? Donc, vous avez cette petite flèche qui est tout en dessous. Eh bien, on va le faire à partir d'un matériau qu'on espère effectivement collecter. Ce matériau, ce sont des captations audio de 2 à 3 minutes, justement, que nous travaillerons justement ensemble lors de la dernière journée sur site. D'accord ? Donc voilà le plan de formation que nous avons lancé et commencé cette année. Peut-être que justement, pour ne pas parler dans le vide, alors peut-être que certains d'entre vous, vous avez déjà assisté à une formation du Centre Alain Savary, justement, oral en contexte. C'est ce qui a été notre cas l'année dernière. Et ça a été une sorte de moment important pour nous en tant qu'équipe de formateurs accompagnateurs. On s'était dit qu'on touchait là du doigt un matériau qui était très, très intéressant. Et puis aussi, on a eu d'autres occasions d'aller observer, d'aller chercher justement ce matériau. Alors justement, pour se dire, qu'est-ce que ça nous demande et peut-être en quoi c'est utile de ramener justement un verbatim en formation. Je vous ai ramené justement un verbatim d'une classe de grande section, de maternelle, d'intérêt plus. Alors il est plus ancien que notre plan de formation, mais c'est un matériau qu'on pourra tout à fait utiliser. Alors ce que je vous propose peut-être justement, c'est de le lire, ce verbatim, et puis de vous poser peut-être la question, qu'est-ce que ça nous apporte, ce matériau ? Est-ce que, qu'est-ce qu'on en tire ? Comment vous réagissez à ce matériau ? Et puis du coup, deuxième question que je vous poserai, pour vous, quelle en serait l'utilité, justement, en formation ? Alors peut-être que je peux poser une question plus précise, c'est selon vous, là, en tant que formateur, qu'est-ce qu'on gagne et qu'est-ce qu'on perd à utiliser un tel outil ? Bah oui.
Bon, à part le fait que manifestement il y a peut-être du comptage, je ne sais plus comment ça s'appelle.
On va plus oser le dire. Voilà.
Ce qui fait rire, hein. Justement. C'est simplement la troisième intervention de l'enseignante. Parce que justement, pour que vous vous habituiez à compter un petit peu plus. Et je trouve ça extraordinaire, parce qu'à la fois, il y a un langage extrêmement... Enfin, je ne sais plus comment dire, d'un registre très élevé. Hein. Vous vous habituiez, c'est génial. Et toujours cette modalisation, un petit peu plus... C'est pour moi, c'est vraiment une dimension des pratiques langagières en maternelle qui est très intéressante, parce qu'on ne sait pas si c'est bien ou si c'est pas bien, c'est pas un jugement, mais il y a souvent tendance à dire c'est un petit peu. Voilà. Et ça, je trouve que c'est intéressant pour les gens qui travaillent en maternelle, de se rendre compte qu'on est toujours dans la. Allez, on est sécurisant, hein, c'est un petit peu plus.
Bon, alors là, ce qu'on peut se dire, c'est que ce qui est intéressant par ce matériau, c'est que justement, on peut aller vraiment regarder au peigne fin ces pratiques langagières qui est tellement volatile et qui est pourtant justement quelque chose de difficile à avoir justement en formation. Donc ça, c'est, je trouve, plutôt intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce... Oui.
Attendez, j'amène le micro. C'est enregistré, donc c'est mieux avec le micro.
Pour moi, quand je vois un texte comme ça, j'ai besoin de le lire plusieurs fois. Donc en formation, je pense qu'il faut laisser le temps aux gens de lire et de relire et de... Voilà. Après, suite à la formation qu'on a... Enfin, suite à la journée d'hier, j'ai envie de le décoder et de schématiser. Parce que... Pour essayer de comprendre, après tout dépend de l'objectif qu'on veut faire passer, mais voilà, c'est une traduction, il y a peut-être besoin d'un décodage, je ne sais pas. Et puis, une dernière chose, c'est dans quel contexte ce travail a été élaboré.
Oui, d'accord, oui, l'extrait de la séance, oui, très bien, oui, la contextualisation de la séance, d'accord. J'ai oublié de...
Comme matériau, moi je ne l'ai jamais utilisé en formation, mais ce que ça m'inspire, ça serait peut-être de l'utiliser un peu comme on fait pour les vidéos avec l'utilisation des focales de Guagou, et ou aussi avec la thématique que vous abordiez tout à l'heure, à savoir la secondarisation, en disant voilà, à quel moment on parle de mathématiques, à quel moment on parle d'autre chose. Voilà, peut-être avec des codages de couleurs, etc. Puis après, susciter des échanges par rapport à ça, avec les bonnes raisons et les limites peut-être à certaines prises de parole de l'enseignant.
Oui, donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que justement, si c'est avec un enseignant qui est présent, quand on le travaille avec l'équipe, c'est de se dire, bah, on va pouvoir donner la parole aux collègues pour nous expliquer justement quels étaient ses mobiles, quelles étaient ses intentions dans l'extrait que nous travaillons. Et je reviens à la précédente intervention, c'est vrai qu'aussi, on voit bien que finalement, derrière ce court verbatim, on pourrait passer beaucoup de temps pour aller déplier énormément de choses et que finalement, en ayant 1, 2, 3, 10 lectures, on aura à chaque fois des éléments qui vont justement nous venir, comment dire, aux yeux, tant du point de vue de l'activité de l'enseignante, tant du point de vue de l'activité justement de l'élève, comme aussi de la situation d'apprentissage. Hein. Donc, il y a énormément de choses à lever et à décrypter ensemble. Donc, en situation de formation, ça peut être super intéressant. OK, oui.
Bonjour. Je vois un intérêt en formation qui est... alors, ça serait le fait de se concentrer sur les mots qu'on utilise quand on enseigne les mathématiques et on laisse de côté tout ce qui est corporel, qui a son importance, qu'on traiterait à côté. Mais en tout cas, de faire un zoom sur les mots. Parce que quand on enseigne les mathématiques, on a toujours ce langage corporel. C'est grand, c'est haut, ça va c'est plus tard, avant. Enfin, voilà. Donc, voilà, ces gestes ont leur importance, mais au moins, je vois l'avantage de se concentrer sur les mots. Et voilà, ça me fait penser à tout ce qui est, par exemple, écriture ou calcul. Quand on donne l'énoncé à l'oral... l'élève va aller vers une procédure qui n'est pas la même que si on lui projette le calcul au tableau. Donc voilà, je vois un avantage à ça.
Alors je garde tout ça justement sous le coude parce qu'effectivement ça va me permettre de faire vraiment le lien avec les observations parce qu'il faut que j'avance aussi, je crois que dans 10 minutes il faut que j'arrête, d'accord. Bon alors je prends votre question puis après je passerai à la suite.
C'est pas vraiment une question, juste hier moi j'étais sur l'atelier activité langagière maternelle et on a analysé une vidéo et je trouve que ça se complète tout à fait puisque dans la vidéo on a étudié un peu le non-verbal, les élèves qui ne parlent pas mais qui s'expriment par le corps, par les gestes, par des mimiques. Et donc ça pourrait être un deuxième, moi je le vois comme un deuxième temps d'analyse où on va travailler sur les mots, les expressions, ce qui se dit du côté des enfants, du côté du PE. Mais j'ai envie de dire la vidéo est quand même un outil super intéressant dans un premier temps, à la fois pour observer les enfants et les enseignants. On est plus dans l'observation du corps, effectivement. Voilà.
Oui, l'idée, ce n'est pas de renvoyer dos à dos hein, les outils qu'on mobilise, mais c'était peut-être pour parler de cet audio. Alors là, vous venez de...
Est-ce que pour des plus petits, parce que là, c'est des grandes sections.
Oui.
Est-ce que c'est envisageable, ce type d'outil, dès la petite section? Parce que justement, en petite section, il y a énormément de choses qui passent par le corps, parce que parfois, ils n'ont pas les mots. Peut-être, oui, par rapport au langage de l'enseignant, du coup, de voir l'étayage, je ne sais pas.
C'est pareil, c'est une bonne question là que vous posez. Je n'ai pas fait moi de verbatim plutôt effectivement que la grande section. Par contre, des vidéos où on entend les enfants parler en petite section ou en moyenne section, c'est vrai que je l'ai utilisé, mais pas de verbatim.
Ouais. Mais c'est vrai que là, c'est en réfléchissant, en parlant. Ouais. Parce qu'on a fait une formation il n'y a pas longtemps là, sur la résolution de problèmes et où les enseignants évoquent la difficulté qu'ont les grandes sections justement à parler de comment ils font pour résoudre le problème. Et on a expliqué aussi qu'il y avait une part qui devait être prise en charge par l'enseignant dès la petite section, parce qu'ils ne peuvent pas inventer. Donc ouais, ce serait peut-être intéressant pour voir justement quelle part de langage est prise en charge en petite section, de voir le basculement après. Enfin voilà, c'est...
Oui.
Peut-être par rapport sur petite section et moyenne section, peut-être qu'un des... Enfin... Un détail, parce que là, finalement, tu nous proposes un verbatim qui est déjà transcrit. Le travail de transcription est un travail qui, en soi, est déjà extrêmement intéressant à réaliser dans le cadre de la formation. C'est-à-dire se mettre à deux ou trois et transcrire, on se rend compte que la teneur des discussions est extrêmement riche. Et du coup, petite section, moyenne section, je pense que ça vaut le coup de faire le travail de, à partir de la vidéo, réaliser la transcription, parce que pour le coup, le langage, c'est pas que du verbal, il y a aussi le non-verbal, et ça signifie que peut-être une part de la traduction, c'est aussi la description des gestes qui sont signifiants, qui ont une signification. Et je pense qu'à partir de là, il y a, c'est notamment un petit peu ce qu'on travaille nous dans l'atelier sur les monstres, hein. C'est comment est-ce qu'on regarde à travers le langage non-verbal qu'on va mettre en mots la signification de l'activité cognitive des élèves. Alors si on n'a que la bande audio, pour le coup, effectivement, on ne l'a pas. Ouais. Ouais. Ah, alors pardon.
Non, je disais aussi, même si on n'a pas la vidéo, hein, on peut demander aussi aux gens de l'imaginer après. Hein, c'est ce qui serait rigolo, comment vous imaginez. Mais il y a aussi des conventions. Enfin, c'est-à-dire que, d'accord, hein, le point après, eh ben, virgule, la dernière fois, virgule. Tout ça, c'est des décisions quand on transcrit. Voilà. D'accord, ma mère, et puis le chute, entre guillemets. Bon, ça peut donner lieu aussi à des interprétations différentes. Les temps, d'accord, les trois petits points, les machins comme ça. Je crois que c'est passionnant pour des gens. Enfin, je pense.
Alors, on n'arrête pas de dire là, pardon. Parce qu'on n'arrête pas de dire tout ce que ça va apporter justement ces verbatims pour notre formation, mais on a aussi des limites qui sont importantes, hein. C'est-à-dire que vous voyez bien que là, pour traduire, pour retranscrire cet audio, c'est quelque chose de très fastidieux. Donc c'est vrai que du coup, ce que tu dis, Sylvie, le fait que retranscrire soi-même déjà un extrait, c'est quelque chose de super intéressant. L'autre avantage, c'est que du coup, le formateur ou le collectif de formateurs n'a pas 250 retranscriptions à faire. Du coup, ça amène aussi l'idée de peut-être d'aller choisir aussi cet enregistrement audio. Nous, ce qu'on a demandé aux enseignants, c'est certainement pas d'enregistrer toute une séance, mais au contraire de faire des choix et de se dire pendant 2-3 minutes, hop, on enregistre. Et déjà, 2-3 minutes, ça suffit largement. Voilà. Alors, on va en donner, on se voit justement dans peu de temps, et ça, c'est un point qu'on va réfléchir justement ensemble.
Une dernière question.
Oui. Oui. Et je, voilà.
Oui, en le lisant et en le relisant plusieurs fois, enfin, ça a déjà été dit, mais c'est vrai que ça peut permettre de partir dans de multiples directions. Je crois que c'est intéressant, ça me semble intéressant de remettre ça au regard des objectifs d'apprentissage de l'enseignante. On peut les deviner au début. Et ce que je trouve très intéressant, et notamment dans le cadre du REP+, c'est d'essayer d'analyser aussi ce qui se joue ensuite, et de par l'utilisation du support jeu, parce que, bon, on sait que dans les milieux éloignés de la culture scolaire, le jeu peut créer de la confusion et éloigner de l'apprentissage. Et on voit bien ce qui se joue sur la deuxième partie de ce verbatim, et à quel point on peut on peut sortir de l'apprentissage, on peut partir sur autre chose. Enfin, tout ça pour dire qu'en fait, c'est multipiste. Et que je pense que l'utilisation de ce verbatim, moi, je pense que c'est vraiment un outil extraordinaire, mais qui a intérêt à être très ciblé dès le départ, parce que c'est comme une vidéo, sinon on peut partir
dans tous les sens.
Hein, mmh. Oui.
En tout cas, enfin, ne serait-ce que ce verbatim-là, je trouve que ça nous permet d'alimenter, hein, de mettre de l'eau à notre moulin, cette idée que on va parler en formation de mise en discipline, hein, par les interactions langagières. C'est vrai que le fait d'avoir un extrait audio retranscrit de la sorte, ça va nous permettre d'aller vraiment dans le réel justement de ces interactions, plutôt que de parler, voilà, de façon théorique justement de mise en discipline. Voilà. Donc c'est vrai qu'il y a un vrai intérêt. Donc il faut que j'accélère un petit peu parce que sinon on va beaucoup trop déborder. Donc je veux juste finir par cette idée de collectif de formateurs qui est quelque chose de très important dans ce plan de formation que nous avons, mené. Donc vous avez entendu tout à l'heure, nous sommes plusieurs conseillers pédagogiques, coordonnateurs de réseau. Il y a aussi des conseillers départementaux qui sont intervenus justement dans ce plan de formation. Je vous disais qu'on était passé d'un moment où on avait des intervenants qui venaient faire un temps de formation et qui repartaient. Là, on a essayé de basculer vers un collectif multiple, donc accompagnateur-formateur, qui accompagne justement dans la durée. Donc notre nécessité, c'était de penser justement l'articulation et la cohérence de notre action, d'où cette idée de faire un collectif de formateurs qui intègre, bah, vous avez entendu, les différents métiers, hein, coordonnateur, conseil pédagogique, de circonscription, départemental, etc., etc. Du coup, il a fallu effectivement concevoir à plusieurs. Et c'est pas quelque chose effectivement d'inutile, parce que on s'est rendu compte que quand on se met à plusieurs autour de la table pour concevoir une action de formation, bah déjà ça nous oblige littéralement à nous mettre d'accord et puis peut-être à identifier ces concepts qui nous semblent totalement transparents pour les uns et pour les autres et finalement qu'on parvienne à les traduire, à ces expliciter pour que justement ce soit quelque chose de mis explicitement dans notre formation. Autre point, bah, on s'est rendu compte que l'histoire de l'animation, parfois c'est pas parce qu'on avait fait une trame commune et qu'ensuite on allait le mettre en œuvre auprès des équipes, qu'en fait on faisait la même chose. Donc c'est vrai qu'une des pistes pour l'année prochaine, si nous arrivons en effet à nous dégager cette année, qu'on fasse de la co-animation, parce que je pense qu'en termes de développement professionnel de ce collectif, ça peut être vraiment très, très utile. Et enfin, le dernier point que je voulais vous dire, c'est cette question de trouver le temps de faire des vraies discussions de métier. Justement, c'est quelque chose de fondamental et je voulais vous donner un exemple. C'était celle autour de l'observation de classe que nous devons justement mettre en œuvre. Donc, hein, je vous remets le schéma peut-être de la formation. Hein. On envoie les enseignants dans les classes observer des collègues justement en interaction langagière. Et du coup, bah, entre formateurs, il a fallu qu'on se mette d'accord sur observer c'est quoi ? Hein, est-ce que on estime que c'est aller chercher la bonne pratique, dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ou est-ce que c'est se confronter au travail ordinaire de nos collègues et puis essayer d'aller décrypter ce qui se joue du côté de l'élève, ce qui se joue du côté de l'enseignant, ce qui se joue du côté de la situation d'apprentissage. Et tout à l'heure, donc, je rebondis sur la question des mots qui sont attrapés. On a construit ensemble une fiche d'observation des enseignants et on a demandé justement aux collègues d'aller attraper ce vocabulaire des mathématiques qu'ils observent, qu'ils entendent lors de la séance. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant parce qu'on voit qu'ils sont très sensibles du coup à comment ou ce que disent leurs collègues qu'ils observent et puis aussi quels sont les mots que les enfants peuvent prononcer. Voilà. Je vais peut-être pas aller plus loin, hein, parce qu'on va déborder un petit peu trop, mais en tout cas, enfin, vous voyez que au-delà de cette formation, effectivement, il y a cette idée de collectif de formateurs qui nous semble quelque chose de très très porteur pour aller encore une fois ensemble construire et lever, hein, ce que je vous disais en préambule. On nous demande d'animer effectivement un plan de formation, mais derrière la complexité du travail qui est à mener, eh bien, on pense très sérieusement que le collectif de formateurs est une belle réponse. Voilà.